Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira, Philippe Zigraf.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Beaucoup de choses au programme et d'abord du cyclisme, la suite d'un Tour de France palpitant. Bauke Mollema a remporté une 15e étape virevoltante. Chris Froome est toujours leader du général, mais son maillot jaune est plus que jamais menacé. On en parlera avec Thomas de Saint-Léger. Large page d'athlétisme également. Christophe Jousset nous parlera des championnats de France globalement décevants pour les stars tricolores. Rencontre également avec Fabrice Zango, triple sauteur burkinabé qui disputera cet été les Jeux de la francophonie et les mondiaux. Et puis on parlera évidemment tennis en fin d'émission avec le 8e triomphe de Roger Federer à Wimbledon, ce qui fait 19 titres du Grand Chelem à son palmarès. Et puis beaucoup de choses à dire aussi sur le continent africain. Bonsoir Philippe Zigraf.
Bonsoir. Avec les chantiers de la CAN 2019 de football au Cameroun, avance-t-il aussi vite qu'il le devrait? Nous entendrons les inquiétudes de l'ancien Lion indomptable Patrick Mboma. Et puis le football, c'est également le CHAN avec un week-end éliminatoire. Les bons résultats ce dimanche de la Mauritanie, de l'Angola et de la Zambie victorieuse en déplacement. Que devient Pascal Feindouno? Eric Mamrut est allé à la rencontre de l'attaquant guinéen qui ne parle toujours pas de retraite. Et puis dans quelques jours débutent les Jeux de la Francophonie à Abidjan. Emmanuel Kofi a rencontré le patron du comité local d'organisation, le ministre Robert Begré-Mambé.
Le Mondial Sport, c'est parti jusqu'à 22h, temps universel. On commence donc par le cyclisme et ce fameux Tour de France. Déjà 2 semaines de course pour le peloton de la Grande Boucle et à 1 semaine de l'arrivée, dur de faire des pronostics. Le maillot jaune est pour l'instant sur les épaules du double tenant du titre, le Britannique Chris Froome. Mais le classement général est très serré. Pour en parler, on rejoint tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur cette Grande Boucle, Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors suspense donc pour les premières places du général, mais on va commencer par évoquer l'étape du jour. C'était la 15e de ce Tour de France, au programme de la moyenne montagne dans le Massif Central, et un joli succès en solitaire du Néerlandais Bauke Mollema qui s'est imposé dans les rues du Puy-en-Velay.
Oui, là aussi ça s'est joué à coups de seconde, 19 exactement en faveur du coureur de l'équipe Trek sur ses premiers compagnons d'échappée. Bauke Mollema s'était extrait du peloton dans la première des 4 ascensions du jour, la montée de Nav d'Aubrac. Il a rejoint un groupe conséquent à ce moment-là, plus d'une 20aine d'unités. Et puis les difficultés se sont enchaînées sous la chaleur. Ce groupe s'est logiquement écrémé à la pédale. Les meilleurs se sont dévoilés. Serge Powells, le belge de l'équipe sud-africaine Dimension Data, Warren Barguil, le porteur du maillot à poids, et puis donc Bauke Mollema qui a décidé de fausser compagnie à tout le monde assez loin, à plus de 30 km de l'arrivée. Paris audacieux, mais Paris gagnant qui lui vaut les félicitations de celui qui termine 3e aujourd'hui, le français Tony Galopin.
Mollema a fait un gros numéro. C'est incroyable qu'il aille si vite. Ça s'entendait pas super derrière, mais quand même ça roulait bien, mais c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans les finales ensemble. Il avait fait pareil à Saint-Sébastien l'an dernier. J'avais fait 2e derrière lui. Voilà, aujourd'hui, il a encore fait un numéro. Vraiment dommage parce que c'est vraiment une étape que j'avais cochée. Les jambes étaient bonnes. Même dans l'effort pourcentage par rapport au pur grimpeur, j'étais bien. Donc voilà, il y a encore une semaine dans les Alpes. C'est pas fini.
C'est pas fini pour Tony Galopin, tombé aujourd'hui sur plus fort que lui, tout simplement.
Alors Bauke Mollema, c'était le plus costaud aujourd'hui, assez loin au général du plus costaud tout court, le Britannique Chris Froome. Et pourtant, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu aujourd'hui pour le Britannique.
Oui, à l'arrivée, Chris Froome termine dans le temps de ses principaux rivaux. Mais il s'est fait une grosse frayeur, c'est l'autre fait du jour. Cet ennui mécanique pour le double tenant du titre au plus mauvais moment, juste avant le dernier col. À ce moment-là, les AG2R envoient plein gaz, comme on dit, en tête du groupe des favoris. Froome doit s'arrêter et là, l'image est saisissante. La plupart de ses coéquipiers restent dans le groupe de tête avec Mikel Landa, le plan B de l'équipe Sky, 5e du général. Le maillot jaune doit lui attendre une petite minute avant d'être dépanné. Finalement, il retrouve deux grégarios, comme on dit, deux équipiers, et il réussit sans s'affoler à rejoindre le groupe Bardet-Arroux.
C'est une drôle d'attitude quand même, Thomas, pour le triple vainqueur du Tour, et forcément ce soir, il y a des doutes autour de sa capacité à emmener le maillot jaune jusqu'à Paris.
Oui, et puis c'est surtout la tactique des Sky qui laisse dubitatif la plupart des suiveurs. Écoutez ce qu'en pense quelqu'un qui connaît bien le Tour de France. Il l'a gagné il y a 30 ans tout pile. Vous allez peut-être reconnaître son accent assez délicieux, l'Irlandais Stephen Roche.
Je pense qu'avec Sky, on ne peut jamais vraiment avoir la séance exacte parce que on n'a pas l'habitude de voir déjà laisser un coureur comme Landa partir échapper l'autre jour. Volontairement ou pas, ça ne sera jamais. Eux diraient que c'est volontaire parce que c'est bien. Tactiquement, c'est très bien, ça fait bien. Mais l'autre côté, honnêtement, tout le monde a de mal un peu à cerner les tactiques de Sky. Est-ce qu'il y a un peu de feu dans le lac? Est-ce qu'il y a un peu de manque de confiance? Est-ce que Sky pense vraiment à troubler un peu les fêtes en disant qu'on va modifier une tactique, changer de stratégie? Comme ça, les uns les autres, ils vont se poser des questions sur notre stratégie. Moi, je sens un malaise avec Froome. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les coureurs ne sont pas arrêtés avec Froome quand ils sont en rue mécanique. Parce que le moins des choses, c'est de moins protéger Froome parce qu'il est quand même le vainqueur sortant. C'est bizarre ce qu'ils font. Comment on doit interpréter? Parce que Froome, il marche très bien quand même. Mais il faut quand même qu'il y ait l'appui de son équipe.
Voilà l'avis de Stephen Roche sur Chris Froome, qui n'est pas le seul à avoir une équipe soudée derrière lui. C'est le cas également du troisième du général, Romain Bardet.
Et en terrain connu aujourd'hui, il est né, il habite au pied de ces jolis monts et volcans du massif central à Brioude, pas très loin d'ici. Évidemment, le vainqueur de l'étape de Peyragudes, c'était jeudi, a tenté le coup, on l'a dit, en faisant rouler son équipe à G2R. Finalement, pas de gain à l'issue de cette étape. Les cinq premiers du général se tiennent toujours en 1 minute 17 secondes. Mais Romain Bardet retient le positif, cette équipe qui donne tout pour lui et qui donnera tout, évidemment, d'ici l'arrivée à Paris dans une semaine. On l'écoute.
C'est le comble de l'émotion en sport d'ouvrir la route sur un Tour de France avec les huit coéquipiers autour de moi en train d'essayer de faire basculer le tour. Et on travaille pour ça, on joue cacher notre jeu et puis de tenter un peu une guerre. J'aime bien appeler mes coéquipiers des guerriers roses parce que voilà, on n'a pas l'équipe la plus forte, mais tous ensemble, soudés, on essaie de provoquer la course. On voit que les niveaux sont très serrés, donc il faut essayer de faire des différences là où on peut. Et voilà, l'étape s'y prêtait aujourd'hui. Certaines côtes, certaines descentes aussi, plus particulièrement.
Que vous connaissez.
Donc
bien.
On va exploiter chaque faille du parcours.
Exploiter les failles du parcours, il a le sens de la formule. Romain Bardet, attendu au bus de l'équipe AG2R par notre homme orchestre Richard Rifono.
Alors les failles, il en reste peu, il reste deux étapes a priori importantes pour les coureurs du général. Ce sera mercredi et jeudi dans les Alpes.
Deux étapes, mais des écarts peut-être important. La troisième semaine est toujours différente, les organismes sont fatigués et puis des ascensions terribles seront proposées aux coureurs. Le Galibier, le toit de ce Tour de France et puis une arrivée au sommet du col d'Izoard. Ce sera jeudi, deux jours avant un contre-la-montre décisif peut-être. Et en tout cas, a priori favorable à Chris Froome dans les rues de Marseille.
Avant ces dernières étapes, Thomas, on va dire un petit mot tout de même sur Luis Mentiès, le grimpeur sud-africain, huitième du Tour l'an dernier.
Huitième l'an dernier, vous le disiez, huitième cette année aussi. En tout cas, pour l'instant, il a eu du mal dans les premières étapes de montagne. Depuis l'arrivée dans les Pyrénées, petit Luigi, comme on le surnomme dans son équipe, s'accroche au basque des grands favoris de ce Tour. Pas mal, mais encore un petit peu tendre pour jouer un top 5 à Paris. C'est l'avis de Stéphane Roche.
Il y a encore ses preuves à faire. D'où ils viennent, le parcours qu'il fait, c'est un parcours magnifique déjà. Mais je pense qu'il faut laisser voir un peu les choses. Je ne mets pas la pression, mais ce serait bien de le voir dans les Alpes en 3-4 jours.
Le maillot blanc de Yates, il est un peu trop loin pour l'instant pour Luis Mentiès.
Oui, parce que Yates, c'est un client quand même qui a quand même un certain passé, une certaine historique. Donc, je pense que c'est un peu très difficile, sauf un incident mécanique ou chute. Je vois mal Yates perdre son maillot. Puis on a bien vu qu'il a bien roulé encore aujourd'hui. Donc, je vois qu'il est encore très en forme.
Mais Simon Yates, toujours maillot blanc. Justement, Thomas, avant de se quitter, un point sur les maillots distinctifs.
Oui, le maillot jaune, évidemment, d'abord. Le maillot jaune sur les épaules de Chris Froome, le Britannique. Deuxième, Fabio Aru, à 18 secondes. C'est un Italien, évidemment. Et puis, Romain Bardet est troisième à 23 secondes. Les six premiers du général se tiennent en moins d'une minute 20. Ce sera évidemment très serré pour cette troisième semaine. Le maillot blanc, vous l'avez donné. Simon Yates devant Luis Mentiès, le Sud-Africain. Le maillot de la montagne du classement du meilleur grimpeur, maillot à poids, solidement accroché aux épaules du Français Warren Barguil. Il a presque 80 points d'avance sur son premier poursuivant, le Slovène Primoz Roglic. Et puis le maillot vert, classement par points, toujours porté par l'Allemand Marcel Kittel. Derrière lui, l'Australien Michael Matthews, vainqueur de l'étape d'hier. Michael Matthews qui a tout de même un sacré retard à combler d'ici l'arrivée à Paris, puisqu'il a 79 points exactement de retard sur l'Allemand Marcel Kittel. Tous ces hommes, demain, seront au repos, Cédric, puisqu'on reprendra la route de ce Tour de France seulement mardi pour une étape qui nous mènera à Romans-sur-Isère.
Une journée de repos qui sera donc très précieuse avant une troisième semaine qui s'annonce palpitante. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger, merci aussi à Richard Rifono qui a assuré la technique. Le Tour de France est à suivre jusqu'à dimanche prochain sur RFI.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, on ouvre une page foot à présent avec vous, Philippe Zieggraff, et cette interrogation, comment se passent les préparatifs de la CAN 2019? Certains émettent quelques doutes à l'image du nouveau président de la Fédération Algérienne de Football qui s'est empressé de dire il y a quelques jours que l'Algérie était prête à remplacer le Cameroun. Philippe, doit-on s'inquiéter pour le Cameroun?
Alors, déjà une prise de position plutôt maladroite de la part de Kerelin Zetchi, en tout cas critiquée par beaucoup de monde. Aux dernières nouvelles, le Cameroun est toujours l'organisateur de cette CAN 2019. Mais ça n'empêche pas les doutes quant à l'avancement des différents chantiers et les interrogations de certaines personnalités comme Patrick Boma. Alors, connaissant mon pays, a-t-il dit à David Kalfa, notre camarade de la rédaction multimédia de RFI, connaissant mon pays, je ne trouve pas déraisonnable de rappeler que cette CAN a lieu dans 18 mois seulement. Assez ironique, Patrick Boma. Petite phrase qui fait tiquer, qui traduit, sinon les inquiétudes, du moins les interrogations que l'on peut avoir sur les préparatifs. Patrick Boma, joint donc par David Kalfa.
Je me dis que s'il est à l'affût de la prochaine, c'est parce qu'il a certainement des raisons. Quand je vois l'état d'avancement des travaux au Cameroun, je me dis que le travail a commencé, mais il est loin d'être achevé, et que c'est certainement sur cela que surfe le président algérien.
Est-ce que vous jugez aujourd'hui que l'état des préparatifs au Cameroun pour la CAN 2019, cet état, il est inquiétant?
Malheureusement, oui, parce qu'il faut des infrastructures hôtelières, il faut des terrains, il faut revoir l'état de certaines routes. Et malheureusement, le constat est que on traîne. Quand je discute avec les gens qui sont au Cameroun, la construction du stade à Douala, les routes et le stade à Bafoussam, le grand stade Paul Biya, on peut dire que ça avance, mais peut-être pas suffisamment vite. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait ponts et chaussées, mais j'ai quand même pu grandir certains projets de stades, même si on peut vanter la qualité de certains, comme les Turcs, les Portugais ou les Chinois, pour délivrer des enceintes d'un temps record. Je me dis qu'il aurait été bon de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de grande interrogation. La situation est très certainement rattrapable. Il faut que nos dirigeants, les entreprises de construction mettent un coup d'accélérateur. On sait que c'est souvent comme ça pour les grandes compétitions, même la Coupe du Monde au Brésil, on a eu des doutes. On sait toujours qu'il y a des difficultés. Le seul problème, c'est que moi, j'avais déjà peur il y a 2 ans et on avait 4 ans devant nous. Donc, on peut s'imaginer que je ne suis pas rassuré aujourd'hui quand je vois trop peu d'enfants sortir de terre, notamment. Et ce n'est pas la seule problématique pour l'organisation d'une compétition. Mais elle est majeure, cette problématique.
La crise qui agite la fédération camerounaise depuis près de 4 ans, est-ce qu'elle joue un rôle majeur dans cette situation délicate?
On a eu l'attribution pendant cette crise. Il fallait prendre en compte cela. On a mis déjà beaucoup de temps pour mettre en place un comité d'organisation. Donc ça, c'était déjà un premier problème. Ensuite, qui fait quoi? Je suis pas sûr que les rôles soient véritablement bien définis. Ça pose toujours ce problème de la qualité de l'organisation. Je veux pas montrer que de l'inquiétude. C'est juste que par prudence et connaissant mon pays, je me dis qu'il n'est pas déraisonnable de rappeler que la CAN n'est que dans 18 mois.
La CAN 2019 a été attribuée en partie au Cameroun grâce à l'appui d'Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Sa défaite en mars dernier face au Malgache Ahmad, est-ce que ça fragilise la position du Cameroun à l'heure actuelle?
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que le président Ahmad est une bonne personne et qui prend le temps de mesurer les choses. Je ne pense pas qu'il ait quelque chose contre le Cameroun, mais c'est sûr que le Cameroun n'a plus peut-être l'arme secrète qu'il aurait pu brandir si M. Hayatou était toujours au pouvoir. Je crois que le Cameroun doit se montrer à la hauteur d'une telle compétition. Ça ne doit pas dépendre de qui est à la tête de l'instance fêtière. Parce que, quoi qu'il arrive, au moment de la compétition et pendant 3 semaines, il faudra être bon.
Qui peut débloquer la situation?
C'est toujours la même personne, comme si c'était la seule à gouverner. Paul Biya, le président. Parce que quand il tape du poing sur la table, les choses avancent très vite. Après, il n'y a pas que le ministre des Sports, il y a bien d'autres personnes impliquées dans l'organisation d'un tel événement. Mais je pense que la personne qui peut faire coordonner tout ça et le plus rapidement possible, c'est le président de la République.
Patrick Mboma, interrogé par David Kalfa. Alors Philippe, le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekja, n'est pas en reste. Lui aussi est allé de son couplet en disant que le Maroc pouvait également organiser cette CAN 2019.
Oui, ben cela n'engage que lui, hein, et c'est le bras de fer classique entre l'Algérie et le Maroc qui ne s'apprécie pas énormément. Mais Fouzi Lekja est allé un petit peu plus loin en parlant de ce qui va se dire peut-être la semaine prochaine à Rabat à propos du symposium de la CAF, mardi-mercredi, suivi du comité exécutif de la Confédération, puis de l'Assemblée Générale de cette CAF, au cours desquelles on va évoquer l'avenir de la CAN. Faut-il l'organiser tous les deux ou tous les quatre ans? À quelle période de l'année? Avec combien d'équipes? Fouzi Lekja a affirmé aujourd'hui que la CAN passerait à 24 équipes au lieu de 16 actuellement, et qu'elle aurait lieu en juin. Alors, on sait que Lekja est proche d'Ahmad, le nouveau président de la CAF. Rien n'est décidé, bien sûr. Ça n'engage que lui, on le disait, mais c'est tout de même une indication.
Et alors Antoine Grenier et David Kalfa seront à Rabat hein, cette semaine pour suivre ces moments importants pour le football africain. On poursuit cette page football, Philippe, avec les résultats des éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux, et plusieurs matchs étaient au programme ce dimanche.
Oui, 6 rencontres dont 2 dans la zone ouest africaine. La Mauritanie est allée s'imposer au Libéria 2-0, but de Dellaï et de Beguili, et puis à Lomé dans le derby des voisins, match nul entre le Togo et le Bénin, un but partout, match dominé par les Béninois, nous dit notre correspondant au Togo, comme l'Aïklou. Le Bénin a ouvert le score par Marcelin Koupko, égalisation togolaise signée Kodjo Sewonu. L'entraîneur des Togolais, les éperviers locaux, l'ancien international Jean-Paul Abalodossé, reconnaissait d'ailleurs la supériorité de l'adversaire.
Quand tu fais un match nul à la maison, que tu as un match retour derrière, c'est plus compliqué. Mais vu la physionomie du match, je peux dire qu'on est revenu au score avec la détermination d'un joueur. Ils ont joué avec leur cœur. On avait une très très bonne équipe en face, c'était vraiment au-dessus de nous. Mais malgré cela, on n'a pas baissé les bras. Ce qui nous a permis de revenir au score. Heureusement qu'il y a un match retour pour nous. Donc on ne s'arrête pas là-dessus. On peut aller gagner au Bénin, pourquoi pas. Ça ne va pas être facile, mais on ne va pas baisser les bras. On va travailler encore une semaine pour aller défiler les Bénois sur leur territoire. On sait que ça va être très compliqué parce que ce qu'ils ont montré aujourd'hui prouve qu'ils sont quand même un ton au-dessus.
On regarde la physionomie de ce match, donc des regrets côté béninois. Écoutez l'entraîneur adjoint Vizir Touré.
À moitié satisfait, parce que nous, pour nous, la qualification devait se jouer ici. Jouer ici pour gagner. Dans les vestiaires, on a corrigé beaucoup de choses par rapport à la première partie, où il devait être plus fort, chercher un deuxième but pour être à l'abri d'une éventuelle égalisation, ce qui malheureusement est arrivé. Ce qui reste à corriger, c'est le travail devant les buts, pour que à Cotonou, on se qualifie. Je crois que le Togo a une très bonne équipe qui, à un moment donné, en deuxième partie, a poussé un sursaut d'orgueil et qui a poussé, qui a trouvé l'égalisation.
Voilà, les deux techniciens étaient au micro de Comme l'on éclou, les résultats de la zone sud maintenant.
À Antananarive, Madagascar a été tenu en échec par le Mozambique de partout, doublé de Njiva, dont un sur pénalty, un but sur pénalty pour les Baréa malgaches. Et puis l'île Maurice battue chez elle à Bellevue par l'Angola, 1-0, pénalty signé Joao Ricardo en première période. Victoire de la Namibie face au Zimbabwe, 1-0, et puis large succès de la Zambie sur le terrain du Swaziland, 4-0, match retour dans une semaine. Me permettez-vous de dire...
Mais bien sûr, Philippe, vous avez tous les droits dans cette émission, vous le savez.
Alors, Mounana est champion du Gabon à 2 journées de la fin, c'est officiel, en match en retard. Mounana a battu l'Olympique de Mangi, le club de Port-Gentil, 1-0. Donc, Mounana ne peut plus être rattrapé par le deuxième, qui est Mangasport de Mwanda. D'ailleurs, les deux équipes vont se rencontrer à l'occasion de la 26e et ultime journée.
Eh bien, bravo aux joueurs de Mounana, sacré donc champion du Gabon. Un mot, on parlait tout à l'heure de la CAN 2019, il vous reste encore quelques heures pour répondre au sondage RFI. Quelle Coupe d'Afrique des Nations voulez-vous? La CAF, on l'a dit, va en débattre cette semaine au Maroc. Vous pouvez donc voter pour les différentes propositions. Doit-on jouer tous les 2 ou 4 ans? Faut-il jouer en janvier ou en juin? Doit-elle rester à 16, 20 ou 24 équipes? Rendez-vous sur le site www.rfi.fr. Vous pouvez voter jusqu'à ce lundi soir. Résultat du sondage dès mardi. On va revenir très vite pour la deuxième partie de l'émission. Plein de choses, de l'athlétisme, du tennis, des nouvelles de Pascal Feindouno. Ce sera après un point sur l'information. A tout de suite.
Mondial Sport sur RFI. Cédric de Oliveira, Philippe Zigraff.
De retour dans Mondial Sport, avant de parler d'athlétisme ou encore de tennis, on va vous donner des nouvelles de Pascal Feindounou. Alors Philippe Zigraf, l'ancien Stéphanois, a vécu une fin de carrière assez difficile à cause de son état de santé. Opéré du cœur en 2014, l'attaquant guinéen de 36 ans a eu par la suite beaucoup de mal à retrouver un club.
Oui, et beaucoup de clubs se sont montrés réticents en raison de son état de santé, disons incertain. En 2015, on se souvient que Sedan lui avait ainsi refusé un contrat au tout dernier moment. Et l'an passé, l'ancien Bordelais et Stéphanois avaient joué un seul match en Lituanie. Depuis, plus de nouvelles d'un joueur qui a évolué dans 6 pays différents après avoir quitté la Guinée à 16 ans. Pascal Feindounou qui compte plus de 80 sélections avec le Sili National, l'équipe de Guinée. Alors aujourd'hui, est-il toujours joueur professionnel ? Éric Mamrut, qui l'a retrouvé du côté de Saint-Étienne où il vit, lui a posé la question. Pascal Feindounou à cœur ouvert.
Professionnel avec le nom, oui, mais bon, sur le terrain, non, parce que c'est pas fini. Le jour que je serai fatigué, je dirai moi-même que c'est le moment, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça va, tout va bien, je m'entraîne. Je fais des petits matchs avec les anciens coéquipiers pour les enfants malades. Je m'entretiens.
Mais vous n'êtes pas en contrat avec un club ?
Non, pour l'instant, non.
Mais vous cherchez, vous êtes disponible ?
Ouais, je suis toujours disponible. Bon, j'ai des contacts un peu, mais bon, j'attends que ça se fasse, après, voilà.
Vous aimeriez intégrer quel club, dans quel pays, à quel niveau ?
À l'étranger, surtout à l'étranger, parce que moi, j'ai toujours aimé d'aller jouer à l'étranger.
Mais vous avez des contacts, il y en a un qui vous sollicite ?
Oui, j'ai des contacts, mais bon, j'attends encore, parce qu'il ne faut jamais parler quand ce n'est pas fait.
En termes de physique, de niveau, vous en êtes où maintenant ?
Je suis prêt, donc sur ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Vous pourriez intégrer dès à présent une équipe, je ne sais pas, de première, deuxième division dans un grand championnat ?
Bien sûr, je peux encore, parce que j'ai confiance en moi, avec l'intelligence que j'ai, l'expérience, tout ça. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas, je peux. Le football, ouais. C'est pas seulement courir, après, voilà. Il y a la technique, il y a tout qui s'ensuit, mais bon, je suis prêt, moi, j'ai pas peur de jouer, de toute façon.
La santé, elle en est où ?
Ben, la santé, ça va, tout va bien pour le moment. C'est vrai que, bon, en France, ça a gêné un peu, parce qu'ils avaient peur de l'assurance, tout ça. À Sedan, par exemple, je suis passé là-bas. Après, bon, ils m'ont fait un test médical. Ils n'avaient rien trouvé. Mais bon, vu que j'avais ce truc-là en disant que j'avais fait un malaise, ce n'était même pas un malaise, mais bon. Après, les gens, ils ont parlé. Bon, j'ai tombé. Je ne suis jamais tombé. C'était juste, j'avais veines bouchées, ils ont débouché, ils m'ont mis un stent résorbable. Là, j'ai plus rien. Et tout va bien, je joue. Pour le moment, j'ai rien, donc tant mieux pour moi. Donc, je continue le sport.
Vous donnez encore combien de temps ?
2 ans, maxi, après c'est bon.
Vous suivez toujours le Sili National un peu ?
Oui, je suis, c'est sûr. Je ne peux pas oublier parce que c'est mon pays. Et en plus, les 2 derniers matchs, il y avait mon frère qui était en sélection. Ils ont perdu contre l'Algérie, match amical, et après ils ont gagné contre la Côte d'Ivoire, match officiel.
Elle vous plaît, cette équipe du Sili National actuellement ?
Oui, magnifique, il n'y a que les bons jeunes.
En plus, c'est
des bons joueurs, c'est des bons joueurs.
Le coach, Kanfori Lapé Bangoura, c'est une bonne personne pour mener le Sili ?
Oui, je pense, parce que bon, il gère. C'est vrai que bon, moi je l'ai connu quand j'étais déjà depuis tout petit. En cadet, c'est mon entraîneur aussi. Donc moi, je peux vous dire que c'est une bonne personne et c'est un bon, très très bon entraîneur.
Pascal Feindounou, pour faire une apparition ou deux peut-être avec le Sili, ou ça c'est fini ça ?
C'est jamais fini avec moi, parce que j'avais lancé l'appel pour dire que moi, je serai toujours disponible pour le Sili. Je suis guinéen, donc voilà, à tout moment, je suis libre, je viendrai avec plaisir, même pour 20 minutes.
Et si jamais on vous appelle pas en tant que joueur, vous seriez prêt à venir en tant que conseiller, peut-être aider ?
Oh, ça c'est sûr, avec plaisir. Même aujourd'hui, on m'appelle pour me dire, parce qu'ils viennent nous aider, viens parler avec les jeunes de maintenant, avec ton expérience, et avec plaisir.
Voilà, ce sera avec plaisir, l'attaquant guinéen Pascal Feindounou, il répondait à Éric Mamrut. Allez, on parle athlétisme à présent avec la fin des championnats de France qui avaient lieu à Marseille. Des championnats qui se sont terminés ce dimanche par la victoire de Renaud Lavilloni et une défaite surprise de Christophe Lemaître. Bonsoir Christophe Jousset.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Marseille, vous avez donc assisté à cette défaite. Lemaître qui s'incline sur 200 mètres, c'est assez inattendu et c'est assez inquiétant à 3 semaines des Mondiaux de Londres.
Oui, le 200, c'est quasiment sa propriété à Christophe Lemaître. Depuis 2010, il a toujours été champion de France, sauf l'année dernière, mais il n'avait pas couru, il était blessé. Aujourd'hui, il a été devancé par Geoffrey Jones avec un chrono modeste de 20 secondes 70. Le médaillé de bronze de Rio n'a pas caché sa déception, mais entre sa blessure d'avril et celle de juin, il a pris trop de retard pour pouvoir prétendre à mieux en ce moment.
C'est quelque chose qui me touche un peu quand même, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être champion de France et... De palette, c'est vrai que ça. Je trouve ça dommage et je trouve ça un peu triste, mais bon, au moins ça permet de me mobiliser, de trouver une bonne raison de me venger et de réparer ça pour les champions du monde, quoi. Les blessures que j'ai eues m'ont handicapé et voilà. Je suis dans la forme que je suis actuellement, donc voilà, c'est comme ça. Hein. La préparation que j'ai actuellement, me permet pas pour le moment de pouvoir enchaîner un championnat comme ça, mon cours deux fois par jour. Bon, en vrai, j'ai envie de dire que ce qui compte, c'est d'être en forme en championnat, dans les grands championnats. Hein. Alors, avec le général, les championnats de France, c'est surtout de répétition avant les grandes échéances. Donc pour le moment, je pense qu'il faut attendre les championnats du monde avant de tirer une conclusion comme ça, quoi.
Voilà, Lemaître pense à Londres, mais ce soir, beaucoup de questions se posent sur la suite de sa saison à chaud. Ses entraîneurs n'écartaient aucune hypothèse, même pas le renoncement au grand rendez-vous de l'été, même s'ils savent que Lemaître voudra coûte que coûte aller aux Mondiaux. Autre hypothèse, que Lemaître ne fasse que le 200 mètres aux Mondiaux. Dans ce cas, il n'irait pas courir à Monaco vendredi prochain, parce que c'est là, en principe, qu'il doit tenter une dernière fois de faire le 100 mètres en 10 secondes, 10 centièmes, ce qui est la performance exigée pour les Mondiaux. Il a couru nettement moins vite hier sur 100 mètres, 10 secondes 34, ce qui ne n'a pas empêché, en l'absence de Vico, d'être sacré champion de France.
Alors Christophe, ces championnats de France ont également montré que les têtes d'affiche de l'athlétisme tricolore sont plutôt à la peine en cette année post-olympique.
Oui, avec les contre-performances de Christophe Lemaître, avec pas mal d'absents aussi, si l'on prend le 110 mètres et, il n'y avait ni Bascou, ni Bélossian, ni Martino Lagarde, ni Darien. Certains sont blessés et d'autres ont invoqué des blessures, ce qui a laissé le champ libre à Aurel Manga, sacré champion de France, en 13 secondes 41, ce qui est là encore un chrono modeste. Mayedine Mekissi aussi a décidé de ne pas venir au dernier moment, alors qu'on l'attendait sur le 3000 mètres steeple et le 1500. Le médaillé olympique et mondial a dit qu'il souffrait des tendons d'Achille. Donc, à l'arrivée, un plateau assez dégarni, avec en vedette quand même Renaud Lavilloni, toujours aussi fidèle au championnat de France, lui, et toujours aussi avide de victoire. Il a remporté son 7e titre national en plein air à l'issue d'un duel avec Kevin Menaldo, mais il a une fois encore calé à 5,90 m, 3 échecs à 5,90 m. 5,80 m, c'est sa performance, ça peut éventuellement suffire pour un podium mondial, mais ça semble trop juste pour la médaille d'or mondiale, la seule qui manque à son palmarès. Renaud Lavilloni, qui est papa depuis 48 heures, était quand même globalement satisfait de sa prestation.
Je suis super content, j'ai pu remporter encore une fois le titre, encore essayer de continuer à me faire mes réglages sur élan complet. Depuis un mois que j'attendais ça, là, c'est la deuxième compète, donc ça fait du bien. Et après, j'ai forcément encore cette petite frustration à 90 quand on voit le saut, mais le plus important était déjà acquis, et puis non, c'est cool, quoi.
Enchaîner 48 heures après la naissance d'une petite fille, ça doit pas être évident.
C'est sûr que je pense que jusqu'à hier, j'avais pas forcément la tête à Marseille, voire même jusqu'à ce matin, mais surtout là où je suis content, c'est que même dans un contexte qui est forcément loin d'être idéal, j'ai quand même réussi à m'en sortir, j'aurais pu faire quelque chose de très très bien. Là, je pense, je considère que c'est déjà quelque chose de bien. Et puis voilà, maintenant, je vais pouvoir bien me concentrer sur Monaco, qui sera la dernière compète avant Londres. Et puis voilà, après, on sait que sur un concours, tout peut arriver dans tous les sens. Donc, juste à moi d'être capable de continuer à élever mon niveau sur les 3 prochaines semaines, quoi.
Voilà, 7e titre de champion de France pour la Villénie en plein air, 8e consécutif pour Mélina Robert-Michon au lancer de disque. Ça annonce peut-être pour elle une nouvelle médaille aux mondiaux. Parmi les athlètes heureux, il y a aussi, par exemple, Janine Hassani-Issouf. Elle se qualifie pour Londres aujourd'hui avec un triple saut à 14,39 m. Elle a réalisé ce que l'on appelait avant les minima et ce que la fédération appelle maintenant le niveau de performance requis.
Des minima, en revanche, la béninoise Odile Awanwanu les a manqués.
Oui, elle était passée tout près il y a un mois à Kladno en République tchèque. Il lui fallait faire 6200 points pour gagner sa place aux mondiaux. Elle avait établi un nouveau record personnel, mais 6131 points, ça ne suffisait pas. Elle est repartie à l'assaut à Marseille, mais son total est insuffisant. 5986 points cette fois. Odile Awanwanu a souffert, comme beaucoup, des conditions météo de ce satané vent qui a perturbé surtout les journées de vendredi et samedi. C'est rageant parce que la béninoise sent qu'elle a les moyens de faire ces fameux minima.
C'est frustrant parce que je pense que je suis bien pour pouvoir le faire. Malheureusement, ça n'a pas été. Au poids, j'ai fait contre-performance, ce qui n'est pas encourageant. Et les conditions, en fait, le vent, ça, franchement, ça ne nous aide pas du tout. Il n'y a aucun athlète qui pourra dire le contraire. Donc on lutte contre le vent. Au javelot, j'ai lancé 41 mètres. Ce n'est pas du tout ma performance. Sur les 100 mètres, j'ai perdu largement. Sur les 200 également.
Et du coup, vous n'avez plus d'espoir de faire les championnats du monde ?
Pour le moment, je suis 21e. J'ai demandé à ce que ma fédération fasse des engagements. Mais pour le moment, je suis toujours à l'attente. J'espère que ça va passer. Je n'ai jamais été, d'ailleurs, tout athlète rêve de participer aux championnats du monde, les Jeux olympiques. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. J'aimerais bien être avec les meilleurs pour me mesurer à peu près, savoir où je suis vraiment.
Les mondiaux d'athlétisme, un objectif, un rêve même pour pas mal d'athlètes. On verra si Odile Awanwanu sera repêchée entre guillemets pour Londres. En attendant, elle sera dans quelques jours à Abidjan pour les Jeux de la francophonie où elle devrait s'aligner sur une ou deux épreuves de l'heptathlon.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Jousset pour toutes ces précisions. À noter que pendant ces championnats de France, le gratin mondial s'est lui réuni à Rabat au Maroc pour la 10e étape de la Ligue des Diamants. À noter la 2e place sur 100 mètres de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou en 10 secondes et 90 centièmes derrière la Jamaïcaine double championne olympique Hélène Thompson. Chez les messieurs, 2e place aussi de Ben Youssef Meïté sur 100 mètres en 10-01 derrière le Britannique Chijindu Yuja. Et puis sans surprise, en l'absence de David Rudisha, c'est le Botswanais Nigel Amos qui l'a emporté sur le 800 mètres. Le chrono, 1 minute 43 secondes et 91 centièmes. Cette Ligue de Diamants nous donne l'occasion de parler d'un athlète burkinabé méconnu. Il s'agit de Fabrice Zango. Il a 24 ans. Il est spécialiste du triple saut. Il n'était pas à Rabat, mais Mondial Sport l'a rencontré il y a 2 semaines lors du meeting de Charletti à Paris. Vice-champion du monde universitaire et vice-champion d'Afrique l'an dernier à Durban, il avait terminé 8e du concours avec un bond à 16,60 m. Une étape importante pour lui, c'était sa grande première en Ligue de Diamants.
J'ai dit c'est une occasion parce que c'est ma première Diamond League. Donc j'ai dit c'est bien de venir prendre de l'expérience et puis bah.
C'est impressionnant la Diamond League ou c'est différent d'ailleurs ou pas?
Alors, ce qui est sûr, quand tu viens en Diamond League, tu ne peux pas venir et. En fait, ce que j'ai dit, c'est que tu rencontres les meilleurs du monde. En fait, tu rentres dans leur jeu et tu ne peux pas venir à. Avec une défaillance physique quelque part et espérer faire quelque chose en fait. Il faut toujours, la Diamond League c'est impressionnant parce qu'il y a toujours des pertes, c'est exceptionnel. Franchement moi je suis content. Parce que d'habitude avec 16,60, je suis classé dans les 3-4 dans les autres meetings en France. Mais là en Diamond League je suis 8e. Voilà, c'est une leçon.
Là, je vois qu'il y a Christian Taylor, il y a Pedro Pichardo, là vous les avez un petit peu observés là.
Exactement. J'ai pu voir en live, je dirais, ce que Christian Taylor il fait. Bah, on a dit qu'il est très rapide effectivement. Il est assez rapide là. Et bon, chez les autres, c'est vraiment des qualités de rebond. Je pense que si je travaille un peu, je pourrais me rapprocher.
Et là, votre programme là pour les prochaines semaines, ce sera quoi alors?
Je vais repartir au Burkina Faso, où je vais m'entraîner et préparer les Jeux de la Francophonie, déjà, à Abidjan. Donc bon, là-bas, je vise forcément une médaille. Hein. Et le plus gros objectif là-bas, c'est remporter en fait la médaille d'or. Bon, j'ai été 10e il y a 4 ans de cela. Ben, j'espère cette année pouvoir remporter la médaille d'or.
Et là, votre objectif, donc c'est les mondiaux. Ouais. Et votre objectif là-bas, ce sera quoi exactement?
Alors, déjà, mon objectif principal dans aux mondiaux, c'est être dans les 8.
Ouais. Vous pensez que vous en êtes capable là ou...
J'en suis absolument capable parce que j'ai déjà... Bon, ce que j'ai fait à Nancy la dernière fois, en fait, ça me rassure parce que en fait, je sens que je peux encore progresser. Et vraiment, c'est l'entrée, c'est je vais dire, ma rentrée de saison en réalité, dans le bon perf. Et là, je continue malgré ma défaillance en fait en fraîcheur physique. Mais là, je pense qu'au mondial, je pourrais être prêt et je pourrais sortir quelque chose, je pense. Ouais.
Voilà, le triple sauteur burkinabé Fabrice Zango, qu'on retrouvera donc à Londres du 4 au 13 août prochain. RFI y sera également. Et vous l'avez entendu, le burkinabé sera aussi à Abidjan pour les Jeux de la Francophonie. Philippe Zegraf, la capitale économique ivoirienne qui s'est mis au diapason de l'événement ces dernières semaines. Les visites d'inspection se sont succédées. Tout est prêt pour recevoir les 4000 engagés venant d'une cinquantaine de pays de l'espace francophone. L'occasion de faire le point avec le patron de ces Jeux de la Francophonie.
Oui, le gouverneur du district d'Abidjan et ministre en charge des jeux, Robert Beugré Mambé, répond à notre correspondant en Côte d'Ivoire, Emmanuel Kofi.
Je puis dire à tous les pays francophones que la Côte d'Ivoire est prête. Parce que la Côte d'Ivoire a réalisé des infrastructures que le monde francophone attendait dans les normes, avec le concours de l'Organisation internationale de la francophonie par son organisme qui est le Comité international des Jeux de la Francophonie. La Côte d'Ivoire est prête.
Quels étaient, au moment de votre prise de fonction, les défis les plus importants?
C'est le défi de la continuité. L'autre défi aussi, c'était le défi de la complémentarité et du travail en équipe. Ces deux défis étaient essentiels, mais c'était des défis mobilisateurs qui nous ont donné le courage de travailler avec toute la haine qu'il fallait. Et je pense que les perspectives qui se dessinent sont le fruit de la volonté du président de la République, du vice-président, du premier ministre, de tous les ministres avec lesquels nous avons travaillé et du comité national des Jeux de la Francophonie et du comité international des Jeux de la Francophonie qui ont travaillé en symbiose pour le succès de ces Jeux.
Les enjeux financiers sont toujours importants. 23 milliards de francs, c'est le coût de ces Jeux. Comment avez-vous trouvé cette somme? Est-ce qu'elles vous ont permis de faire ce qu'il y avait à faire?
Le trait final des dépenses n'est pas encore tiré. Je ne peux pas annoncer le montant que vous annoncez, mais ces Jeux ont un coût parce que ce qui revient à la Côte d'Ivoire du point de vue des gains va au-delà des coûts que nous pouvons annoncer dans les semaines à venir quand nous aurons tiré tous les traits. Parce que, en fait, ce qui est important, ce sont les legs que la Côte d'Ivoire capte après ces Jeux. Les legs matériels, ce sont les infrastructures, c'est la Bibliothèque nationale, c'est le Musée national, c'est le Stade Foubagny, c'est le parc des sports avec au moins 7 composantes. C'est le stade Champrou, c'est le canal au bois, c'est la cité INJS où nous avons construit 33 bâtiments flambant neufs pour accueillir les 4000 athlètes qui viennent. Donc, du point de vue matière, la Côte d'Ivoire a un leg énorme qui lui permet d'avoir des perspectives de regroupement d'athlètes ou de compétiteurs à tout moment et en toute saison. Le deuxième leg, c'est le leg économique. Parce que à travers ces Jeux, beaucoup de secteurs de l'économie ivoirienne vont connaître un foisonnement. Les transports, l'hôtellerie, la restauration, les services, la presse, l'agriculture, le tourisme de masse. Troisième type de leg, c'est le leg de la notoriété. À un moment donné, avec les vacillements sociopolitiques que nous avons connus, l'étoile a légèrement pâli. Mais le grand leg que nous apporte les Jeux de la Francophonie, c'est que cette étoile va briller de tout son éclat au plan international et au plan régional. Et ça, ça n'a pas de prix. Ensuite, il y a un quatrième leg qui est majeur, c'est que la lisibilité de la Côte d'Ivoire au plan international est telle que cela va rassurer les investisseurs. Et vous savez que le grand rêve du président de la République, c'est de permettre que la Côte d'Ivoire soit le pays de l'investissement rentable et profitable à la population. Et cela, nous le faisons avec tous les pays de l'UMOA, de la CDAO et l'Union africaine. Donc, ce quatrième type de leg est tellement immense qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui matériellement la composition structurelle de ces legs, mais on en voit la perspective, elle est énorme. Là.
Les différents sites ont été construits dans une contrainte de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est néanmoins fin prêt pour accueillir athlètes, délégations, la communauté internationale?
Toutes les réalisations sont suivies de très près par le Comité international des Jeux de la Francophonie, qui a un contingent d'experts dans tous les domaines d'ailleurs, et qui visite régulièrement tout ce que nous faisons, et qui sont en symbiose avec les ingénieurs et les spécialistes en tout genre dans l'organisation de ces Jeux. Donc rien n'est fait au hasard, nous le faisons, nous faisons toujours ces travaux en duo avec le Comité international des Jeux de la Francophonie.
Quel message avez-vous pour la communauté francophone?
Il y a une phrase qu'il faut retenir. Abidjan un jour et Abidjan toujours. Ils sont avec nous, nous sommes ensemble. Abidjan les attend, nous sommes pressés de les accueillir.
Abidjan un jour, Abidjan toujours, c'est joli. Hein, le patron des huitièmes Jeux de la Francophonie, Robert Begré-Mambé au micro d'Emmanuel Koffi. Alors au programme des Jeux, 12 épreuves culturelles et 8 disciplines sportives. Athlétisme, athlétisme handisport, basket, judo, football pour les moins de 20 ans, lutte libre, lutte africaine et tennis de table. Le cyclisme sera sport de démonstration. Le coup d'envoi de cette 8e édition, on le rappelle et on le disait, vendredi prochain, 21 juillet, le service des sports de RFI sera bien sûr sur place avec Olivier Pron et David Kalfa. On le disait tout à l'heure.
Oui, parce que vous...
Farid Achache.
Voilà,
sera
à Rabat.
Sera
lui à Rabat.
Parce que David Kalfa ne peut pas être en même temps et à Rabat et à Abidjan.
Hein, voilà, c'était pas. Important de le préciser.
Voilà.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, à 23h54 à Paris, il est grand temps de parler d'un des événements de la journée. Ça s'est passé en tennis. Bonsoir Alexandre Seban.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Avec donc ce nouveau triomphe pour Roger Federer à Wimbledon, le Suisse qui a remporté son 8e titre à Londres, le 19e grand chelem de son immense carrière en finale et en seulement 1h40 de jeu, il a dominé le Croate Marin Cilic dans un match à sens unique.
Ouais, à sens unique Cédric, car Cilic était en réalité blessé depuis sa demi-finale contre Querrey vendredi, rien de très grave, mais il avait des ampoules au pied gauche. Pourtant, c'est bien lui qui s'est procuré la première balle de break à 2-1 dans un début de partie tendu, opportunité manquée face à un Federer très nerveux, mais qui a lui bondi sur ses premières occasions à 2-2. Marin Cilic a ensuite décliné physiquement et perdu la première manche 6-3. Dans la foulée, il a vu le Suisse faire le trou à 3-0 et a fait appel au médecin pour son pied douloureux avant de s'effondrer en larmes sur sa chaise. Le géant croate l'a compris, il ne peut empêcher l'issue évidente de la partie. Victoire en 3 manches, 6-3, 6-1, 6-4 pour Roger Federer qui s'offre son 2e majeur cette saison après l'Open d'Australie.
Federer, on le disait, qui remporte son 8e titre à Wimbledon, c'est un nouveau record.
L'anglais William Renshaw et l'américain Pete Sampras l'accompagnaient jusqu'ici avec 7 titres sur le gazon anglais. Roger Federer trône seul à présent et c'est forcément très particulier pour lui car Wimbledon, on le rappelle, était son objectif prioritaire cette saison et représente forcément beaucoup pour le Suisse.
Yes, it is very special.
Oui, c'est vraiment très spécial ici pour moi. Wimbledon était et restera toujours mon tournoi favori. Les héros de mon enfance et de mon adolescence ont bataillé sur ces courts. Et je crois que grâce à eux, je suis devenu un meilleur joueur. Donc, marquer l'histoire ici à Wimbledon reste forcément quelque chose de très particulier pour moi. Après, honnêtement, je n'ai pas pensé à cela aujourd'hui ou pendant la cérémonie de remise de trophée. J'étais juste trop heureux d'avoir gagné une fois encore ici. Parce que vous savez, tout le processus a été si long depuis l'an dernier à travers la remise en forme. Il y a eu de bons et de difficiles moments. Donc devenir le champion de Wimbledon pendant un an, c'est quelque chose que je vais savourer. Mais oui, le 8e titre signifie énormément pour moi et être entré si haut dans l'histoire de Wimbledon est tout simplement incroyable.
À ce niveau, être partie de Wimbledon history is truly amazing.
Désormais, Cédric, c'est vacances pour Roger Federer. Un ou deux tournois début août, puis il arrivera en favori à l'US Open fin août et visera décemment le titre pour s'adjuger un 20e grand chelem en carrière et pourquoi pas d'ici la finale des Masters à Londres en novembre à laquelle il est déjà certain de participer, s'installer à la place de numéro 1 mondial.
Eh bien, cette saison de tennis est décidément très intéressante avec les coups de mou d'Andy Murray et de Novak Djokovic et donc de ce regain de forme de Roger Federer. La nouvelle génération qui, elle, peine à prendre le pouvoir. En tout cas, ce sera très intéressant pour la suite de l'insaison. Merci Alexandre Seban et à bientôt dans Mondial Sport.
Merci à vous.
Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Le temps, quand même, de dire un petit mot tout de même pour vous, Philippe Zigraf, puisque c'est la dernière fois qu'on vous entend dans Mondial Sport et ça me fait très plaisir d'avoir présenté cette émission avec vous. Vous partez vers de nouveaux horizons, on peut dire ça ?
Écoutez, oui, si on peut dire. Oui, effectivement, après de très longues années, plus de 30 ans à RFI. Mais enfin, en tout cas, c'est on dit une retraite bien méritée, dit-on. Bon, je ne serai pas loin du sport africain, tout de même, j'espère, encore dans les années à venir. Mais en tout cas, C'est très gentil de votre part. Je voulais absolument rien dire. Je voulais pas que vous en parliez. Vous en avez parlé.
Ah, mais bon, vous n'avez pas le choix sur ces choses-là.
Voilà. Donc, je vous remercie. Puis je remercie surtout tous ceux qui sont fidèles et qui l'ont été et qui le sont encore. Tous ceux qui sont fidèles à RFI et surtout au rendez-vous du service des sports de RFI toutes ces années. Pour moi, bon, ce fut un très grand plaisir, effectivement, de faire vivre le sport, et notamment le sport africain, puisque je me suis beaucoup plus occupé de tout ce qui était sport africain, un petit peu dans toutes les disciplines, donc tout au long de ces années. Donc un grand merci à tous les auditeurs, à tous les fidèles auditeurs, à tous les correspondants du service des sports d'RFI, tous les confrères. Bon, on va pas non plus citer tout le monde, et ça a été un énorme plaisir de travailler ici dans cette radio, Radio France Internationale. Une grande fierté, un grand plaisir tout au long de ces années depuis 1983.
Oh là, voilà, ça remonte.
Oui, voilà, ça ne rajeunit pas. Mais bon, il faut une fin à tout. Place aux jeunes, place à vous.
Voilà, on va essayer de reprendre le flambeau. En tout cas, merci beaucoup à vous, Philippe Zegraf. Merci aussi à Fabrice Violet qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous les envoyés spéciaux. Je vous rappelle les grands événements de la semaine. Le symposium de la CAF à Rabat, mardi et mercredi. Le congrès exécutif de la CAF, ce sera jeudi, avec peut-être de grandes décisions pour l'avenir de la CAN. Le début des Jeux de la Francophonie, ce sera à Abidjan et ce sera à partir de vendredi. Et puis en France, bien sûr, la troisième semaine de ce Tour de France cycliste. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche, 21h10, temps universel. Très bonne soirée à vous sur RFI.